Accent d'Europe, Clémence Pénard.
Bonjour à toutes et à tous. Toute l'Europe derrière l'Ukraine. Oui, mais à une exception près et de taille, la Serbie soutient massivement la Russie de Poutine. Le pays, candidat à l'entrée dans l'Union européenne, refuse de prendre des sanctions contre Moscou. Des milliers de militants d'extrême droite ont même défilé dans les rues de Belgrade en criant « Tous les Russes sont des frères des Serbes ». Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 200 000 Russes ont été accueillis en Serbie et la plupart de ces exilés se sont installés dans la capitale, où chacun tente de s'imaginer un avenir. Le reportage de Simon Rico.
Tous les mardis soirs, dans les locaux de l'association Crocodile, il y a cours de serbe pour les Russes qui viennent d'arriver à Belgrade. C'est là qu'Anton nous donne rendez-vous. Craignant d'être mobilisé, ce trentenaire a quitté brutalement Moscou en septembre dernier, où vivent toujours sa femme et leurs deux enfants. Il est arrivé à Belgrade après une escale de 2 mois en Arménie.
C'est pas le voyage touristique, c'est le désastre pour les Russes qui sont contre la guerre. Et alors on fait beaucoup de sacrifices pour pas être les marionnettes de Poutine, pour n'aller pas à la guerre, pour ne participer pas à ces crimes.
C'est aussi là, dans les locaux de Crocodile, que se retrouvent chaque semaine les membres de la société démocratique russe dont Anton fait partie. Ce collectif de militants pacifistes tente d'alerter les Serbes sur ce qui se passe réellement en Russie, notamment via des performances artistiques publiques dans le centre de Belgrade. Parce que la Serbie, candidate à l'intégration à l'UE, est l'un des pays européens les plus pro-Kremlin.
La chose qui m'a surpris beaucoup, ce sont des lettres Z. Sur les murs, les inscriptions du soutien de la Russie, de l'armée russe. C'est ici qu'on voit beaucoup de ces inscriptions agressives, les criminels de guerre serbe, et ça m'a frappé beaucoup.
Pour ces dizaines de milliers d'exilés russes libéraux, difficile de comprendre pourquoi les Serbes penchent tant du côté de Poutine. L'accueil qu'ils réservent à leurs frères orthodoxes est en tout cas très chaleureux, ce dont se réjouit Maxime, un informaticien arrivé fin décembre de Saint-Pétersbourg avec sa femme.
Ma première réaction a été de me dire que ce n'était pas très différent ici. C'est une ville avec beaucoup de culture, avec des gens très sympathiques, et ce n'est pas trop occidentalisé. On se sent toujours en Europe de l'Est. Pour moi, ce n'est pas comme si j'étais parti à l'étranger. J'ai plutôt l'impression d'avoir juste changé de ville. Il n'y a pas tant de différence, et je m'en réjouis.
Maxime travaille à distance pour une entreprise occidentale. Avant la guerre en Ukraine, ce quadragénaire n'avait jamais pensé quitter un jour la Russie. Et pourtant, aujourd'hui, il envisage sérieusement de refaire sa vie à Belgrade.
Ma priorité, c'est de me créer une communauté d'amis, des gens avec qui je puisse passer du bon temps, des Russes, mais aussi des Serbes, bien entendu. Ensuite, j'aimerais faire venir mes enfants. J'ai besoin qu'on puisse vivre tous ensemble. Ce n'est plus possible en Russie en ce moment, et j'espère donc pouvoir le faire en Serbie.
À Belgrade, il est devenu banal d'entendre parler russe dans la rue. Quelques cafés et restaurants tenus par des Russes sont déjà ouverts et certaines librairies ont désormais un rayon spécial pour ces nombreux exilés. Leur profil type, jeunes travailleurs ou travailleuses nomades spécialisés dans les nouvelles technologies. Leur arrivée a aussi eu pour conséquence de faire exploser les prix des loyers. Même si la flambée se calme, comme l'explique Peter Nikitin qui vit ici depuis 2016.
Il y avait cette histoire il y a quelques mois, mais je crois que les loyers se sont un peu stabilisés parce qu'on s'est réalisé que les Russes ne sont pas si riches comme la plupart pensaient. Oui, il y a des gens qui sont plutôt bien placés, qui ont de l'argent, mais ça ne s'applique pas à tout le monde qui vient de la Russie. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout riches.
Il est encore trop tôt pour savoir si ces Russes resteront et s'ils changeront durablement l'identité de Belgrade. En tout cas, en Serbie, on espère que leur présence boostera l'économie nationale et on se prend déjà à imaginer que cette vague migratoire historique aura des effets comparables à l'arrivée massive des Russes blancs après la révolution d'octobre 1917. Cette intelligentsia a laissé des traces, notamment architecturales, toujours admirées dans la capitale serbe.
Entre la République tchèque et la Russie, nouvel épisode dans les tensions diplomatiques. Le gouvernement tchèque a annulé des décrets pris sous le communisme permettant à l'Union soviétique puis à la Russie de profiter à titre gratuit de plusieurs propriétés immobilières à Prague et ailleurs dans le pays. Les explications d'Alexis Rosenzweig.
La Russie ne pourra plus utiliser les bâtiments et parcelles en question sous couvert d'activités diplomatiques. Prague réclame de surcroît une indemnisation sur les trois dernières années. Pour rappel, le gouvernement de l'époque avait approuvé ces décrets dans un pays occupé par l'Union soviétique. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Fiala, qui se félicite d'un retour à une situation normale. Le ministère russe des Affaires étrangères a d'emblée annoncé des mesures de rétorsion, sans fournir de détails. La diplomatie tchèque a anticipé que cela pourrait affecter la maison tchèque à Moscou, un complexe immobilier propriété de l'État tchèque et en jeu de litige depuis plusieurs années. Avant même l'invasion de l'Ukraine, la Tchéquie était en effet le seul pays avec les États-Unis à avoir été placé par la Russie sur la liste des pays dits « hostiles ». Après des révélations sur l'implication des services russes dans des explosions sur le territoire tchèque, des dizaines de diplomates russes avaient été expulsés de Prague en 2021. Moscou avait répondu en expulsant la quasi-totalité des diplomates tchèques en poste en Russie.
L'intégration de la Finlande à l'OTAN ne change rien à une mentalité bien ancrée dans le pays. Toujours être prêt au pire, à un conflit avec le grand voisin russe. En Finlande, les abris anti-atomiques sont parfaitement entretenus. Le pays a d'importantes réserves de blé, de pétrole ou même de médicaments. Et le service militaire est obligatoire pour les hommes. Mais la guerre en Ukraine a également eu un effet notable sur les femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses à suivre des cours de résilience et de préparation à la défense civile. Carlotta Morteo.
Au fond d'une forêt, sur une base militaire à 1h30 d'Helsinki, des femmes ramassent du bois.
On a dû construire un radeau hier capable de transporter deux personnes pour traverser 25 mètres d'eau. Mais on n'a pas réussi avec mon équipe. Donc on a le droit qu'à un tout petit poisson qui tenait dans la paume de la main pour le dîner.
Eija Eriksson, enseignante de 51 ans, suit un stage de survie avancé ce week-end. Un peu plus loin, devant une voiture brunie par le feu, Sani, 24 ans, saura désormais quoi faire en cas d'incendie.
Je suis une femme et je vis seule. Tout ce qu'on apprend ici est très utile. Ça m'évitera d'aller toujours regarder sur Internet. Et puis, je lis dans la presse beaucoup de choses sur la guerre. Donc, je me pose la question, si la crise arrive ici, comment est-ce que je vais survivre ?
300 femmes, toutes vêtues d'un treillis camouflage, participent à l'un des ateliers organisés le week-end, plusieurs fois par an, par l'Association nationale des femmes pour la protection civile.
Women want to be useful.
Casquette vissée sur la tête, Suvi Axela, coordinatrice.
90% de ce qu'on enseigne concerne essentiellement la vie en ville ou en banlieue, pas la survie en forêt. Mais c'est bien de connaître ce genre de choses pour sortir de sa zone de confort. Ça enseigne la résilience.
En 25 ans, plus de 100 000 femmes ont acquis ici tout un tas de savoir-faire.
How to survive without electricity.
Comment survivre sans électricité, sans toilette, sans eau potable? On ne manie pas d'armes ici. Il y a d'autres associations où l'on peut apprendre à tirer. Mais il y a beaucoup d'autres choses importantes à savoir. Que faire en cas d'incendie dans ta cuisine, par exemple? En cas d'accident sur la route? S'il y a une personne agressive dans la rue? La sécurité et la préparation sont avant tout une attitude mentale, une manière de penser.
Si les hommes font leur service militaire pendant 6 à 12 mois, les femmes sont encouragées à se former pour être volontaires dans des missions de défense civile. Un cours, récemment ajouté au programme, est toujours complet.
Misinformation, malinformation. La désinformation, les fake news, quels groupes les propagent ici en Finlande, comment s'articulent leurs discours, quel genre d'arguments on peut utiliser.
Marietta est journaliste et patriote.
Mon grand-père s'est battu contre l'invasion russe pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai entendu ces histoires. Mais aujourd'hui, se préparer à la guerre d'information est plus urgent que d'apprendre à utiliser une arme.
Pour s'y frotter, une simulation de guerre informationnelle sur les réseaux sociaux est animée par Christina Forsgaard, experte en communication de crise.
Dans cette simulation, il faut mettre de côté ce qui fait de toi un être civilisé, surtout l'équipe qui est dans le camp des méchants, puisque son objectif principal, c'est de faire du mal, de trouver les points faibles et de manipuler l'esprit de l'autre équipe. C'est un exercice mentalement très difficile. Donc on a un psychologue présent pour parler de l'effet de ces techniques de désinformation sur les esprits. C'est une forme de vaccination.
Préparer les civils au pire en temps de paix pour être prêts en temps de guerre, voilà un aspect central de la stratégie de défense de la Finlande depuis 80 ans. Les femmes savent qu'elles ont un rôle à jouer, la guerre en Ukraine leur a rappelé.
Dein ganzes Leben hängt an dieser Werkstatt. Was machen wir denn jetzt?
Alors que le festival de Cannes se poursuit dans le sud de la France, en Allemagne, un scandale bouleverse le monde du cinéma. L'acteur et réalisateur Til Schweiger, connu à l'étranger pour son rôle dans le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, est accusé d'harcèlement et d'agression. Delphine Nerbollier, l'affaire ébranle un monstre du cinéma allemand.
Til Schweiger est incontournable dans le cinéma actuel allemand. Cet acteur de 59 ans a joué dans des films ultra populaires et il a réalisé des fictions qui ont toutes dépassé le million de spectateurs. C'est encore le cas pour son dernier film appelé Manta Manta qui est sorti le 30 mars en Allemagne. À l'étranger, on le connaît entre autres pour un rôle dans le film de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. Or voilà, depuis la fin avril, Til Schweiger est au cœur d'une polémique. Pendant le tournage de son dernier film, il aurait exigé d'une figurante sans expérience de se dévêtir pour une scène qui, de toute manière, et tout le monde le savait à l'époque, serait coupée au montage. C'est de là qu'est parti l'incendie. Le magazine Der Spiegel a interviewé une cinquantaine de personnes qui décrivent les très mauvaises conditions de travail sur les tournages avec Til Schweiger. Le réalisateur arriverait régulièrement alcoolisé, il serait injurieux envers les équipes, agressif et il aurait l'été dernier frappé une personne au visage. Il ferait par ailleurs travailler ses équipes bien au-delà du nombre d'heures réglementaires et serait connu sous le nom de l'empereur ou même du tyran. Une actrice et une réalisatrice allemande ont ouvertement confirmé ces faits sans cacher leur identité. Elles parlent d'une affaire qui ne serait que le haut de l'iceberg. Si ces révélations ont ébranlé le milieu allemand du cinéma, rares sont les acteurs, techniciens et producteurs qui osent confirmer cela sans exiger l'anonymat. En cause, le rôle central que joue Til Schweiger dans cette industrie et la peur de ne plus jamais pouvoir travailler. La maison de production qui a produit le dernier film de Til Schweiger dit ne pas avoir été mise au courant, mais sous la pression des autorités fédérales, elle a lancé un audit indépendant pour faire la lumière sur cette affaire. L'intéressé, lui, réfute tout en bloc. Il ne s'exprime que par le biais de son avocate.
À Barcelone, ces derniers jours, plusieurs cas d'harcèlement sexuel de professeurs envers des élèves dans les universités ont créé l'indignation. Alors face à la polémique, les pouvoirs publics ont décidé d'agir. Élise Gazangel.
Les universités catalanes vivent leur MeToo ces derniers jours. Comme souvent, le mouvement est né d'un cas particulier, la réintégration d'un professeur de fac suspendu plusieurs mois par la direction après la plainte d'une élève pour harcèlement sexuel en septembre 2022. Mais ce retour de l'enseignant dans l'université Blanquerna de Barcelone a provoqué l'indignation des élèves qui ont alerté les médias la semaine dernière et a surtout déclenché de nouvelles plaintes. En une semaine, trois autres élèves ont dénoncé des messages privés très inappropriés à la direction de l'établissement, qui a finalement décidé, après une courte enquête, d'exclure définitivement le professeur. Ce cas s'ajoute à d'autres similaires qui ont été révélés dans la presse ces dernières semaines, dans plusieurs universités de la région. Alors, face à la polémique, le gouvernement régional s'est vu forcé de réagir, d'abord en établissant un protocole unique à toutes les facultés pour prévenir et accompagner les cas de harcèlement, mais aussi en mettant en place un audit dans toutes les universités pour avoir un décompte officiel des affaires et des suivis, puisque dans la majorité des cas, les plaintes ne sont déposées qu'à la direction de l'établissement et pas à la police. Le rapport devrait être publié à la rentrée en octobre, même si une enquête du journal El Periódico révèle qu'une trentaine de professeurs a été sanctionnée en interne ces dernières années sur environ 150 cas dénoncés.
Aujourd'hui, Clet. Qui peut s'écrire Clet ou Clet ou Clet?
Avez-vous déjà entendu le mot clète? C'est ce qu'on appelle un belgicisme, un mot utilisé essentiellement à Bruxelles et en Wallonie, les régions francophones de la Belgique. Clète, ça désigne quelqu'un de gauche, de maladroit, et le mot va faire son entrée, Laure Broulard, dans l'édition 2024 du Petit Robert.
Une clète, qu'est-ce que c'est? J'ai posé la question aux Bruxellois.
Alors une clète, ça c'est tout à fait inattendu, je ne pensais pas que ce serait homologué, c'est un idiot, quelqu'un qui manque de jugement. C'est gentil, c'est pas insultant.
Clète, je crois que c'est du bruxellaire en fait. Ça veut dire quelqu'un qui est bête.
Vous l'utilisez souvent ou pas?
Non, pas tellement. Non. Mais je le connais bien quand même.
Clète, c'est donc d'abord un nom qui désigne une personne pas très douée, on l'a compris. La toute nouvelle définition du Petit Robert que l'on peut déjà trouver sur Internet indique que c'est un terme familier qui désigne quelqu'un d'incompétent. Le dictionnaire donne même un exemple d'utilisation. Ouvrez les guillemets, quelle bande de clète? On peut également jouer comme une clète au football par exemple, mais certains l'utilisent aussi comme une interjection.
Ça peut être clète mariette. Alors ce sera vraiment juste avec la famille. C'est un peu, on pourrait dire, évelant, rentemplant. Si un événement cocasse, un peu inopiné survient, avec un caractère drôle, on pourrait dire peut-être clète mariette. Mais alors ce serait plus comme une exclamation.
Le mot tirerait son origine du néerlandais, la langue parlée en région flamande, dans le nord de la Belgique et dans une moindre mesure à Bruxelles. Il aurait été repris et adapté en français, d'abord dans la capitale, puis en région wallonne, au sud du pays. Et il reflète donc un peu l'histoire linguistique complexe du pays. Écoutez à ce sujet le linguiste Michel Francard. C'est lui qui propose chaque année une liste de belgicismes à l'équipe du Petit Robert.
Ce clète, au départ, était assez restreint à Bruxelles, mais voyez-vous, il se diffuse alors en Wallonie. Et c'est aussi une remarque que l'on peut faire de façon intéressante. La Wallonie et Bruxelles ont deux histoires linguistiques très différentes, hein, puisque la Wallonie est terre romane, alors que Bruxelles est historiquement un territoire plutôt germanique. Mais aujourd'hui, la frontière entre les deux est tout à fait poreuse, et il y a pas mal de passages de mots de Bruxelles en Wallonie, et l'inverse est vrai également.
Mais clète n'est pas le seul belgicisme à apparaître dans la nouvelle édition du Robert. Le cougnou va aussi y faire son entrée. C'est une brioche que l'on mange ici à la Saint-Nicolas et à Noël. Nouveau mot également, gaïole, qui peut désigner à la fois une cage à oiseaux, une prison et une cage de but. De quoi grossir les rangs des termes typiques de Belgique francophone dans les dictionnaires français. Termes qui se sont multipliés ces dernières années et qui acquièrent ainsi une forme de légitimité au sein de la langue française.
C'est à la fin des années 60, début des années 70 ou 70, comme nous disons chez nous, que les deux grandes maisons d'édition, Larousse et Robert, ont fait une ouverture aux mots de la francophonie, comme on les appelle. Hein. Et donc, certaines personnes de référence en Belgique ont contribué à ces deux dictionnaires et ont introduit quelques très rares belgicismes, donc ça se comptait sur les doigts d'une main au point de départ. Et la liste est restée figée assez longtemps, jusqu'au moment où le Petit Robert, en tout cas, nous a demandé de faire une révision fondamentale de cela, et on est passé alors de quelques belgicismes à plus de 350 dans la première refonte, donc celle de 2008. Et aujourd'hui, on en est à près de 500.
Mais des belgicismes, il en existe bien plus. L'équipe de Michel Francard en a recensé plus de 2000 au sein d'un dictionnaire dédié qui en est à sa troisième édition.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Retrouvez notre émission en podcast sur le site rfi.fr et abonnez-vous à nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. À bientôt.